plusieurs années, je travaillais dans le couvre-plancher. D'ailleurs, je travaillais dans le couvre-plancher, puis mon territoire, c'était ici. J'avais l'ouest de Montréal, puis j'avais ici, j'étais sur la route. Et puis, on était venus au Seigneur, les et moi, on se fréquentait, et on commençait à peine. C'était vraiment les débuts de notre vie chrétienne. On avait placé notre foi en Jésus-Christ, puis on commençait notre vie chrétienne. Et une journée, je travaillais sur la route, et puis mon patron a décidé de venir avec moi sur la route, et il a décidé de travailler sur la route, rencontrer des clients, et on est allé dîner ensemble. Et à un moment donné, j'étais nouveau, alors je lui partageais un peu ce que je vivais avec ma relation avec Jésus-Christ, et puis que j'avais commencé à lire la Bible. Et quand j'ai dit que j'avais commencé à lire la Bible, sa première réaction, ça a été « Oh! Oh! » Il dit « Monsieur Joseph, il y a des gens qui sont devenus fous en lisant la Bible. Faites attention! » Est-ce qu'on peut devenir fou à lire la Bible? Amen. Oui, exactement. C'est ça. On peut pas devenir fou en lisant la Bible, mais on peut devenir fou de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont fous de Jésus? Oui, hein? Amen. Je comprends. Mais effectivement, si on ne devient pas fou en lisant la Bible, il y a une bonne et une mauvaise façon d'approcher la Bible. Il y a une bonne et mauvaise façon d'interpréter, d'étudier et une bonne et mauvaise approche de la Bible. Et vous savez, lorsqu'on a une mauvaise interprétation, des mauvaises explications de la Bible et tout ça, et lorsqu'on commence à enseigner des choses qui ne sont pas selon les Écritures, ça endommage l'Église et ça fait du tort. Et c'est ce qui est arrivé justement, même d'ailleurs quand tu regardes les 2000 ans de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des fausses doctrines, des enseignements qui se sont faufilés, qui étaient injustes, qui n'étaient pas vraiment fidèles aux Saintes Écritures. Et qu'est-ce que ça fait? Ça endommage les Églises, ça fait mal aux Églises. Et c'est arrivé, ça fait 2000 ans que ça arrive, il y en a, il va encore en avoir. Et c'est arrivé principalement au Nouveau Testament, ça a commencé là avec la naissance de l'Église, et déjà ça n'a pas pris de temps, que des fausses doctrines, des faux enseignements, des enseignements erronés de la Bible circulaient. Si bien que dans une église en particulier, l'église d'Éphèse, il y avait certaines personnes dans l'église qui ont commencé à enseigner des erreurs. C'est pour ça que Paul sent vraiment le besoin d'écrire une lettre à Timothée, entre autres, qui devait s'occuper de cette église à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, pour l'aider à se remettre sur le pied et à corriger des choses, parce que des gens s'éloignaient de plus en plus à l'essentiel, qui était de répandre l'Évangile. Et là, on commençait à se donner, à passer des heures et des heures à interpréter des passages de l'Ancien Testament comme des généalogies, puis on sortait toutes sortes de choses très mystiques, bizarres, qui n'est pas vraiment biblique. Et là, ça l'endommageait vraiment, on s'éloignait de vraiment la cause du centre que doit occuper une Église, qui est Jésus-Christ, l'avancement de l'Évangile. Et ça l'endommageait. Donc, Paul va écrire cette lettre à Timothée pour lui dire quoi faire, pour lui montrer les erreurs et quoi faire. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut voir, parce qu'on a des principes en lisant ce texte qu'on va lire ensemble, qui vont ressortir, qui nous aident à repérer les mauvais enseignements des bons enseignements des Écritures. Alors, on va voir ça ce matin. Mais juste avant, courbons-nous juste un instant et demandons au Seigneur de vraiment bénir notre temps ensemble à travers ce passage. Un passage très important. Prions. Eh bien, Seigneur, on veut te demander qu'à travers cette série que nous avons amorcée, que nous avons commencée dans la lettre à Timothée, que tu puisses nous aider à voir c'est quoi une Église en santé, un chrétien en santé, plein de vitalité spirituelle, et que tu puisses nous accompagner à travers cette série, et que tu puisses te servir de cette parole qui est inspirée, cette lettre à Timothée, pour nous aider à devenir de plus en plus comme toi. C'est notre prière, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Nous voulons ressembler au caractère de Jésus, caractère si parfait de Jésus. Mais on a besoin de ton Esprit Saint pour cette œuvre qui est miraculeuse, parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable, Seigneur. Pas capable d'avancer. On a besoin de ton intervention, de ton aide. Nous sommes comme des mendiants ce matin. Nous ouvrons nos deux mains et nous nous attendons à toi. Remplis nos cœurs, Seigneur, enseigne-nous, afin qu'on devienne celui que tu aimerais que l'on devienne, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, on tourne ensemble, si vous voulez bien, dans 1 Timothée, chapitre 1. C'est écrit de 1 à 11, mais on n'aura pas le temps d'aller jusqu'à 11. Qu'on va faire? On va s'arrêter au verset 7. 1 Timothée, chapitre 1, et jusqu'au verset 7, puis la semaine prochaine, on va continuer. Surtout qu'à partir de verset 8, l'apôtre Paul ouvre toute une porte sur l'Ancien Testament. Donc, on va s'arrêter la semaine prochaine pour regarder comment lire l'Ancien Testament. Il y a des passages difficiles dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui vont se servir même dans l'Ancien Testament pour dire tu n'as pas le droit de mettre de tatou et tout ça. Regarde, c'est écrit des versets dans le passage, dans l'Ancien Testament et tout ça. Alors, il y a des passages difficiles comme ça. On va regarder ça un peu la semaine prochaine. D'accord? Donc, 1 à 7, j'ai pensé qu'on pouvait passer plus de temps juste sur cette question-là la semaine prochaine. Donc, verset 1 à 7. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse, pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. On va arrêter là, si vous voulez bien. D'accord? Maintenant, ça ne prend pas de temps. Paul termine tout de suite sa salutation, après juste une couple de versets, des salutations à Timothée, et tout de suite, il amorce, il attaque de front ce qui n'allait pas dans l'Église. Et quand tu t'arrêtes, tu regardes ce qui n'allait pas, tu suis les problèmes qu'on va voir un peu parsemés à travers la lettre, une courte lettre de 6 chapitres. Quand tu regardes les problèmes qui s'accumulent à travers la lettre, tu t'aperçois finalement, quand tu analyses tous ces problèmes, ça revient pas mal essentiellement au même problème de fond, qui est un mauvais usage de la parole de Dieu. Certains se servaient de la Bible de la mauvaise manière et enseignaient la Bible pour propager l'erreur. Maintenant, on parle de personnes ici qui font partie de l'Église. On ne parle pas des gens d'ailleurs, on ne parle pas des non-chrétiens de l'extérieur, dans la ville, qui critiquaient. Là. Non, non, on parle des gens de l'Église. D'ailleurs, on pense, il y a plusieurs arguments d'ailleurs qui favorisent cette idée-là, qu'il s'agirait en fait des anciens dans l'Église. Mais maintenant, c'était des anciens, pas anciens, c'est des anciens, des gens qui se sont mis là, qui ont pris le lead, qui a des gens d'influence. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul sent le besoin d'écrire tout un chapitre 3, pour montrer quels sont les critères pour choisir des anciens, dont un, c'est être apte à l'enseignement, parce qu'il circulait ici des gens qui avaient pris vraiment le rôle de leadership dans l'Église, des personnes influentes, et ils propageaient l'erreur. Alors, Paul va intervenir, va dire à Timothée, « Regarde, il y a un problème ici. » Alors, ce sont des faux docteurs, ils propagent ces fausses doctrines, et c'est désastreux pour l'Église. Maintenant, comment on fait pour reconnaître les mauvais enseignements bibliques? C'est quoi les critères? Sur quoi se fier? Alors, première chose, et ça c'est majeur, les enseignements erronés, les fausses doctrines reposent sur trois erreurs. La première, c'est la spéculation. On va commencer à spéculer. Ces personnes qui enseignaient l'Église à Éphèse aimaient apporter toutes sortes d'interprétations mystiques. Ils donnaient des interprétations farfelues et bizarres et servaient des généalogies de l'Ancien Testament. Ce n'est pas nouveau, d'ailleurs, à travers l'histoire, il y a même des gens qui ont fait ça. Ils vont commencer à faire toutes sortes d'allégories à partir de l'Ancien Testament. Il y a même un petit mouvement, à un moment donné, qui est parti. On prenait les 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament et on avait interprété ça comme quoi que ça représentait 12 époques de l'histoire de l'humanité. Franchement, vous savez c'est quoi les 12 tribus d'Israël? Vous savez c'est quoi le sens de ça? C'est simplement les 12 tribus d'Israël. Ça arrête là, il n'y a rien de mystique derrière ça. C'est vraiment là, une communauté dans l'Ancien Testament. Mais on avait commencé à faire toutes sortes d'allégories et on spéculait. Vous savez ce qui arrive quand tu commences à spéculer? Pourquoi tu spécules? C'est que ces gens-là voulaient apporter un peu de la nouveauté. Ils voulaient un peu impressionner les autres, un peu se mousser. Et ils voulaient être des gens qui donnaient l'impression d'être pas mal intelligents et pas mal savants. Quand tu sors une façon de se démarquer, que ce soit dans n'importe quelle science, que ce soit la théologie, la science, que ce soit la mécanique, que ce soit du milieu médical, que ce soit en psychologie, la façon de te démarquer, c'est de sortir de la nouveauté, que tu es le premier à sortir quelque chose. Et ça, tu vas te démarquer. Et parfois, c'est super, c'est excellent. On pense à Steve Jobs, hein, qui a inventé tout le Macintosh et tout ça, qu'aujourd'hui, on apprécie nos iPhones. Et il y a toutes sortes de nouvelles technologies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cette semaine, dans le Journal de Montréal, ce monsieur a même passé à la télévision. C'est un docteur, le docteur Stéphane Rinfret, qui est le premier, un gars de Montréal, hein, cardiologue à Montréal, le premier au monde à utiliser un fil en titane d'un tiers de millimètre pour déboucher les artères. C'est une nouvelle approche et ça évite les opérations à cœur ouvert. C'est inséré dans le poignet et ça va se rendre jusqu'au cœur, puis ça fait l'effet d'un marteau-piqueur. Alors, ça t'empêche d'avoir de l'anesthésie puis des interventions chirurgicales. C'est super. Maintenant, ça reste à être confirmé. C'est très positif. On va faire des tests à New York pendant les prochaines années, 2 ans, 100 ou 200 peut-être patients. Et c'est tout à fait nouveau. Après des tests à New York, là, ça va bien. Alors, on aime les nouveautés. On aime les belles découvertes. C'est pour ça qu'on va mettre de l'argent pour faire de la recherche au niveau du cancer. On veut découvrir des solutions. Mais parfois, la raison pour laquelle on amène des innovations, c'est pour un peu gagner de la popularité. Hein? Pendant plusieurs années, il y a des gens même qui ont fait ça pour faire des accroirs, mais dans le but de mousser sa popularité, sa cote de popularité. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, plus que ça a de l'air savant, plus que c'est compliqué et profond, plus que ça a de l'air d'un savant. Tu as remarqué ça? Il y a quelques années, il y a eu un article dans le Psychology Today. Il y avait un congrès dans le milieu de la psychiatrie. C'était plein de monde dans la salle. Et ils ont fait un test parce qu'ils voulaient faire une analyse. Ils ont voulu découvrir quelque chose, certains principes. Ils ont embauché un acteur qui irait en avant, parce qu'il y avait plusieurs discours pendant le congrès. Alors, ils ont embauché l'acteur pour qu'il puisse faire un discours devant tout le monde. Le gars, il n'avait aucune espèce d'idée ce qu'il disait. Alors, ils ont dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire semblant, on va te faire passer pour un spécialiste, tu vas aller sur le stage, tu vas faire un discours, tu vas avoir des mots, invente des mots bien compliqués, puis tu vas avoir l'air d'un savant. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'acteur arrive sur le stage, fait son discours, et ça avait l'air, c'est tellement, le gars, il n'avait aucune espèce d'idée de ce qu'il disait, ça n'avait pas d'allure, c'était du charabia, du n'importe quoi. Il s'en va faire son discours, mon ami. C'est un acteur. Après, à la fin de la conférence, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des formulaires, des questionnaires, puis ils ont donné ça à tout le monde dans la salle pour leur demander quel discours vous avez trouvé était le meilleur. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les autres ne savaient pas, là, mais c'était l'acteur qui n'avait aucune espèce d'idée de ce qu'il disait en avant du stage. Ils ont dit, son discours, c'était tellement profond, c'était tellement utile même. C'est le discours qu'on a trouvé le plus intéressant. Vous savez, plus que c'est compliqué, plus que tu passes pour un savant. La faute, ce n'est pas nous autres, c'est la nature humaine. On est fait comme ça. Et ces gens-là voulaient justement, ils arrivaient avec des interprétations de l'Ancien Testament, comme la généalogie, des fables et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être renommés dans l'Église puis être quelqu'un de spécial pour que tout le monde les regarde et dise « Ouf! » Ça, eux autres là, sont vraiment spéciales. Eh bien, c'est ça qu'ils voulaient, ces gens-là. Et on apprend au verset 4, Paul dit au verset 4 dans le passage que nous avons lu tantôt, que certains s'attachaient à des formes, des généalogies sans fin, et ils apportaient toutes sortes d'interprétations. Pourquoi ils faisaient ça? Bien, c'est vraiment intéressant parce que Paul dira au verset 7, il dit, Ces gens-là veulent être des professeurs de la loi. Et ça, mes amis, c'était une expression qu'on servait pour les rabbins. On les appelait les professeurs de la loi. Alors, voici ces gens-là qui sont dans l'Église, qui veulent faire ils veulent donner une version chrétienne des rabbins qui avaient de l'autorité de l'enseignement dans les synagogues. Alors, eux autres voulaient être les renommés, les gens qui étaient considérés comme des rabbins dans l'Église et poursuivre finalement ce qui se faisait dans les synagogues. Une version chrétienne des rabbins. Ils voulaient être les professeurs de la loi. Et vous savez ce que les gens disaient, hein? Ça avait l'air tellement compliqué, complexe et tout ça, que les gens disaient, « Ouf, wow! » Mais c'est notre nature humaine, ça. On est comme ça. Quand c'est complexe et tout ça, ça donne l'impression, ça communique l'idée que c'est plus profond, cette affaire-là. Maintenant, ça peut être aujourd'hui, on en a encore, hein? Aujourd'hui, sur YouTube, on peut entendre toutes sortes d'affaires, mon ami, c'est comme, « Wow! » Des fois, je suis nerveux. Il y a certaines personnes qui me disent, hey, « J'écoute un tel ou un tel sur YouTube. Il enseigne la Bible. » Et je vais voir, puis je le regarde. J'écoute un peu ce qu'il dit. Combien de fois, même Alex a exhorté quelqu'un. Je me rappelle une fois, il a exhorté un monsieur qui venait ici. Il dit, « Écoute, arrête. » Il avait entendu parler de ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il écoutait. Puis il a dit, « Arrête, là, ça va te détourner. » Tout ça. Puis effectivement, le frère est parti. Combien de gens, on apprend, ils écoutent des enseignements de la Bible. Ils sont, à un moment donné, il y a tellement de choses qui se disent, que c'est tellement d'erreurs, que qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes la foi. Maintenant, il y a des bonnes choses. Je remercie le Seigneur, moi, pour YouTube et toutes les conférences, les podcasts qu'on peut écouter, des bons enseignements de la Bible. Moi, je fais du jogging, puis j'écoute des messages, j'écoute régulièrement des messages, et c'est édifiant, mais encore faut-il que ce soit des bons enseignants, fidèles aux Écritures. Mais encore aujourd'hui, on a toutes sortes de choses qui s'enseignent. Rappelez-vous, hein, les choses mystiques comme Da Vinci Code. Au début du livre, c'était écrit « fait », c'était au pluriel « fait », qui prétendait que toutes les descriptions et documents de ce roman sont exacts. Alors, il s'est avéré qu'on a étudié tout ça, on a fait une enquête, il y a même des livres qui sont sortis, enquête du Code Da Vinci, puis c'est faux finalement, plein d'erreurs. Et c'est ce qui arrivait dans l'Église d'Éphèse. Certaines personnes se servaient de certains textes de l'Ancien Testament, puis ils déduaient toutes sortes d'interprétations farfelues, mais ce n'était pas exact. C'était de la spéculation. Alors, que conseille Paul à Timothée? Il va lui dire, écoute, tiens-toi de loin de ça, là. Tiens-toi de loin de ça, ce n'est pas édifiant, là. Ça ne construit pas, ça ne bâtit pas, ça n'avance pas le projet de Dieu. D'ailleurs, au chapitre 4, Paul dira, « Rejette les récits absurdes et contraire à la foi. » Et Paul donne la raison pour laquelle il faut faire attention à ces fausses doctrines. Il dit au verset 4 du premier chapitre que nous sommes en train de lire, « Ça ne sert pas le projet de Dieu, ça ne fait pas progresser la cause de l'Évangile. » Bien au contraire, ce n'est pas édifiant. Donc, la spéculation. Deuxièmement, mauvaise façon de se servir de la Bible, c'est de semer la controverse. Nos positions de la Bible vont semer la controverse. C'est évident, notre position... Jésus a semé la controverse. L'apôtre Paul s'est même fait jeter en prison à cause de ses prises de position sur certains sujets. Mais là, on ne parle pas de la même chose ici. On ne parle pas de ce genre de controverse. Là, on parle de la controverse au sein de l'Église. La manière que ces personnes interprétaient et enseignaient la Bible semait la division dans l'Église. Ce n'était pas édifiant. D'ailleurs, au sixième chapitre de la même lettre, 1 Timothée chapitre 6, voici ce que nous pouvons lire. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles de mots. Maintenant, l'une des marques de mauvais enseignement, de mauvais usage de la Bible, c'est qu'au lieu de nous inspirer à ressembler davantage à Jésus-Christ, ça nous divise. Alors, quoi faire? Quant à des gens qui sèment la controverse avec toutes sortes de fausses doctrines. Bien, Paul dira dans une de ses lettres à Tite, voici ce qu'il dit. Il dit, « Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, et on parle des cinq premiers livres de l'Ancien Testament, c'est comme si on se disait, les disputes, les conflits relatifs à l'Ancien Testament, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne de toi, après un premier, puis un second avertissement. » Maintenant, Paul devait écouter des matchs de baseball parce que ce qu'il est en train de dire, finalement, essentiellement, c'est que trois prises, après ça, ils sont out. Maintenant, il dit « avertis-les ». Et le but, c'est toujours de gagner. le but, quand tu amorces un processus de discipline, c'est toujours de gagner le frère ou la sœur pour qu'elle revienne à l'Évangile. Toujours, c'est le but, c'est de gagner. Alors, tu vas le voir. Si tu vois qu'une personne s'éloigne et fait des erreurs, et tu le vois s'éloigner, tu veux aller le chercher, tu veux l'encourager à revenir à l'Évangile, revenir à l'essentiel. Mais là, s'il n'écoute pas, tu vas une troisième fois. Tu veux gagner. Alors, une fois, deux fois, trois fois, mais après, tu veux protéger l'Église. Alors, tu es obligé parfois de mettre la personne, d'exclure la personne de l'Assemblée dans le but de protéger l'Assemblée. Est-ce que c'est un manque d'amour? Ça, c'est l'une des critiques qu'on reçoit parfois. Très souvent, lorsque tu amorces un processus de discipline, tu te fais accuser de dire, « Bon, regarde, cette Église-là manque d'amour. » Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est que tu te soucies tellement de la personne que tu ne veux pas la perdre. D'ailleurs, c'est ce que Paul va dire. C'est au nom de l'amour que tu fais ça. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Il dit, « Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur. » C'est pur. De bonne conscience et une foi sincère. Alors, on reconnaît les enseignements erronés de la Bible en ce qu'ils s'appuient sur de la spéculation et sèment de la controverse. Mais troisièmement aussi, c'est apporté avec une assurance mal fondée. Les gens n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'ils disent, qu'ils enseignent, mais ils parlent avec assurance. Regardez ce que le verset 7 dit. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, avec assurance. Ils ont beaucoup d'assurance, par exemple. Ils sont dans le champ, mais bon sang, quand ils enseignent, ils enseignent avec assurance. Mais là, ils ne savent pas. On pourrait appeler ça une confiance ignorante. C'est une assurance mal informée qui repose sur l'erreur. Mais la personne, elle est convaincue d'avoir raison, malgré ses erreurs. Maintenant, comment reconnaître les bons enseignements de la Bible? On va aller de l'autre côté maintenant. On sait qu'on fait un mauvais usage des Écritures. Lorsqu'on spécule, on sème la controverse avec nos positions des Écritures qui sont de la spéculation et tout ça. Puis troisièmement, même tu ne connais pas ce que tu dis, tu es dans l'erreur, mais tu parles avec beaucoup d'assurance sur un passage. Mais maintenant, en revanche, comment on fait pour connaître un bon enseignement? Bon, évidemment, il faut faire une bonne étude biblique du passage. Ça, on prend ça pour acquis. Il y a des outils pour ça, il y a des livres pour ça. Il y a des livres qui sont écrits. Comment interpréter la Bible, par exemple? Donne des étapes à franchir, pour être fidèle aux Écritures, pour essayer de bien comprendre le passage. Mais cela étant dit, je me sens veilleuse, on prend ça pour acquis, quoique c'est majeur, il y a des cours de Sembeck et tout ça qui se donnent pour nous aider, il y a des livres qui sont écrits pour ça, pour nous aider à passer à travers certaines étapes, pour être fidèle aux Écritures, et on veut faire ça. Mais le passage ici que nous voulons regarder, Paul va mettre l'accent un peu ailleurs. Alors, en plus d'être fidèle aux Écritures, d'étudier les Écritures sérieusement, Il y a d'autres facteurs qu'on voit ici, qui est un autre élément important qu'on a besoin, sur lequel on a besoin de s'arrêter. Un bon enseignement de la Bible cherchera à produire quatre vertus. Et la première, c'est l'amour. Le but de ces instructions, dit le verset 5, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. L'amour, il ne faut pas manquer ça, ce détail-là, c'est vraiment important. Voici comment reconnaître le vrai du faux. C'est que ça favorise... Ça fait la promotion de l'amour. Ça t'emmène, ça te conduit, ça t'inspire à aimer davantage comme Jésus a aimé. Paul dit à Timothée, ne laisse pas ces gens répandre ces erreurs, car le but d'étudier la Bible, c'est de chercher à produire l'amour. Maintenant, Paul va se servir du même mot qu'on va retrouver dans 1 Corinthiens 13, le mot « agapé » ici, où il donne toute l'explication en détail de ce que c'est que l'amour. Et tu t'aperçois que l'amour, ce n'est pas sentimental, c'est des gestes que tu poses, c'est des actions. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, cherche les intérêts des autres. L'amour est plein de bonté, plein de patience. Ça, c'est la description qu'on a en Corinthiens 13. Paul dit à Timothée, « Fais-les taire, car si le but de l'enseignement, c'est juste la connaissance, si c'est juste de l'orgueil, ça produit la controverse, bien, ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a donné ce livre. Il nous a donné ce livre afin que l'on puisse vivre le même genre d'amour que Jésus a vécu. Et tout ce qui ne produit pas ce genre d'amour est ce que Paul va appeler au verset 6 des discours creux, un discours vide et littéralement qui ne produit pas de fruits. Il dit essentiellement la même chose au chapitre 13 de 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Comment il commence 1 Corinthiens 13, ce passage sur l'amour? Il dit, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, et même que si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai même le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je ne suis rien. En d'autres mots, peu importe le degré, l'intensité de connaissance que tu as, peu importe les prières si belles que tu fais, si tu n'as pas d'amour, ça ne donne rien. Même si tu donnes tous tes biens aux pauvres, et même si tu livres ton corps aux flammes, en d'autres mots, tu es un martyr. Même si tu deviens un martyr, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Alors voici ce qu'on a besoin de produire chaque fois que l'on lit les Écritures. Lorsque tu es chez toi, tu commences à méditer les Écritures, tu commences à lire la Bible, ou tu vas dans un groupe biblique où on enseigne la parole de Dieu ici aussi à l'Église. Qu'est-ce qu'on veut? On veut favoriser, faire la promotion, encourager à s'aimer davantage. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? C'est comme ça que qu'on va reconnaître les vrais disciples, si vous vous aimez les uns des autres. Moment intéressant où Jésus, dans l'Apocalypse, va écrire 7 lettres à 7 églises. Et il donne ses commentaires. C'est un peu un bulletin. Il donne des commentaires à 7 églises différentes. La première église, c'est l'église d'Éphèse. C'est exactement l'église où s'adresse cette lettre, l'église d'Éphèse. Et c'est vraiment intéressant ce que Jésus va dire. Jésus va dire, tu fais vraiment des belles choses. Tu es fidèle, tu fais ci, tu fais ça. Il donne une liste de toutes les belles choses que l'Église d'Éphèse fait. Une Église assez solide. Elle a persévéré à travers les temps durs. Mais au bout du compte, Jésus va dire, « Mais voici ce que j'ai contre toi. Tu as perdu ton premier amour. » Et ça, c'est majeur. Tu peux avoir plein de choses, comme dit Corinthiens 13. Mais si tu n'as pas l'amour, ça sert à quoi? Alors, un bon enseignement cherchera à produire l'amour agapé tel que défini dans 1 Corinthiens 13. Il cherchera aussi également à améliorer notre caractère. C'est une autre vertu, ça. À travailler notre caractère. Regardez le verset 5, le but de ses instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur. Et là, le cœur pur, ça parle de ton caractère, ça, ici. Qui je suis. Quand on médite les Écritures, on devrait toujours chercher à développer notre caractère pour qu'il ressemble toujours de plus en plus au caractère de Jésus-Christ. Une autre vertu qu'un bon enseignement cherchera à produire, c'est l'obéissance. Verset 5 parle aussi d'une bonne conscience. Comment tu as une bonne conscience? C'est en faisant le bien. On a une mauvaise conscience quand on ne fait pas le bien, on fait le mal, mais on a une bonne conscience quand on fait le bien. Et c'est un des buts en lisant, en étudiant les Saintes Écritures, c'est de nous encourager à vraiment progresser dans notre sainteté. C'est de se poser la question quand on lit un passage des Écritures. Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever dans ma vie qui ne te glorifie pas? Ou qu'est-ce que j'ai besoin de commencer? Bon enseignement des Écritures encourage l'obéissance. Une autre vertu aussi soulignée ici par l'apôtre Paul, c'est qu'un bon enseignement de la Bible encourage une foi sincère. Donc, vraiment être sincère avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. On ne joue pas de jeu, on veut vraiment grandir. On veut marcher davantage par la foi. On veut apprendre à faire confiance de plus en plus à notre Dieu. C'est ça, marcher par la foi. Faire confiance de plus en plus à Dieu. Et parfois, c'est difficile. Il y a des gens qui m'ont parlé entre les deux services, vraiment brisés par des épreuves qui sont en train de passer à travers. Une autre personne est en larmes parce qu'elle est arrivée une crise. Et c'est ce que les Écritures veulent produire en nous, qu'on fasse de plus en plus confiance à Dieu dans ces moments-là, dans ces moments de crise et d'épreuve que nous avons dans notre vie. Et il y a toutes sortes de situations qui nous arrivent. Mais c'est ce qu'un bon enseignement veut encourager à faire, de placer notre confiance en Dieu. Et quand tu lis les Écritures, c'est la raison pour laquelle on s'expose aux Écritures. On voit notre Dieu agir à travers les Écritures. Et cela sème de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, ça bâtit, et on a besoin de cela. Et ça, c'est une des vertus qu'un bon enseignement veut produire. Alors, lorsque j'arrive devant un passage des Écritures, comment je vais me poser la question, comment je peux faire plus confiance à toi, Seigneur, dans ma vie, dans mon travail? Y a-t-il une chose que j'ai besoin d'arrêter ou commencer? Y a-t-il un aspect de mon caractère que tu veux travailler, que tu veux transformer? Alors, avec cette attitude, je vais devenir de meilleur en meilleur. Je vais grandir dans ma relation avec Dieu. Et c'est ce que la Bible veut produire en nous. C'est ce que les Écritures saintes veulent produire en nous. J'aime beaucoup ce passage en 2 Timothée 3. Et on veut le lire ensemble. C'est un passage très important qui dit ceci. « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » Et après, ça dit ceci, « Afin que l'homme, et c'est général, l'homme et la femme de Dieu, soient formés, équipés pour toute bonne œuvre. » En d'autres mots, tu vas devenir un serviteur qui sera de plus en plus comme Jésus, à mesure que tu t'exposes aux Écritures saintes. Et c'est ce que Dieu veut produire à travers toi, à travers sa parole. Faire de toi une femme et un homme de Dieu formé, équipé pour le servir. Ce que l'Église a besoin, ce n'est pas moins de doctrine, c'est plus de doctrine. Vous serez surpris, hein? Il y a des gens qui n'aiment pas ça, doctrine, ça fait sec. Mais Paul va se servir du mot doctrine plus de 7 fois dans cette courte lettre de 6 chapitres, et ça, c'est à part du verbe. Alors, on a besoin plus de doctrine, c'est-à-dire d'étudier les Écritures saintes. On a besoin d'encore plus, parce qu'on a besoin d'apprendre à connaître notre Dieu. On a besoin davantage à connaître le salut, la doctrine du salut. On veut se connaître davantage. C'est les Écritures nous révèlent qui on est. On veut connaître l'Église, on veut connaître la famille, on veut connaître notre nouvelle identité maintenant que nous sommes en Jésus. Et notre plus grand besoin est de connaître Dieu encore plus. Vous savez, plus on apprend à connaître Dieu, plus on va l'aimer. Plus on apprend à connaître sa sainteté, sa grâce, sa bonté, sa générosité, sa miséricorde, son amour, plus on connaît son caractère, plus on va vouloir s'approcher de lui. Et c'est seulement à travers sa parole qui est révélée qu'on va le connaître. Je pense que c'est Spurgeon qui disait, tu sais, ce livre te gardera de péché, ou le péché te gardera de ce livre. Approchons-nous donc ensemble de ce magnifique livre afin que l'on devienne de plus en plus comme son auteur. Amen. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier de nous avoir donné les saintes Écritures qui parlent de toi, qui nous révèlent qui tu es, qui nous fait connaître Jésus. Seigneur, nous voulons te louer qu'aujourd'hui, cette parole est si accessible à travers le monde et en combien de langues. Il y a plusieurs peuples qui n'ont pas encore ta parole. Je pense à Chantal, la fille de Gaétan Pilon, et à Ivy qui travaillent pour connaître la langue d'un village en Afrique afin de pouvoir traduire ta parole dans la langue du peuple. On pense à plusieurs langues qui n'ont pas encore accès à ta parole. On te prie pour ces nombreux missionnaires qui se donnent, qui donnent leur vie, qui se consacrent à l'étude des langues pour rendre ta parole plus accessible. Mais Seigneur, nous te prions maintenant que tu puisses nous aider, nous, à nous plonger dans les Écritures saintes. Aide-nous à développer cette saine habitude à méditer et à lire ta parole, afin que l'on devienne de plus en plus comme toi, avec l'aide du Saint-Esprit qui nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.